7h45, l'invité de Matin de Première. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs observateurs de la mouvance djihadiste, auteur d'un livre événement, Les Revenants. Romain Cornet, vous recevez David Thompson.
Bonjour David Thompson.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Paris, journaliste à RFI, ancien correspondant en Tunisie, pour faire court. Les Revenants sont ces Français, ces Belges, ces Tunisiens partis faire le djihad en Syrie ou en Irak et qui reviennent au pays parfois. Des jeunes avec lesquels vous avez pu discuter, souvent via les réseaux sociaux, les messageries. C'est ce qui fait l'originalité et la pertinence de votre long travail d'enquête puisqu'il a duré plusieurs années. J'imagine que ça n'a pas été simple d'établir des contacts.
C'est toute la difficulté quand on travaille sur les questions djihadistes, c'est effectivement de pouvoir nouer des relations directes avec eux et de faire des entretiens directs, non seulement d'en faire, mais d'en faire sur la longueur. Moi, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et c'est à mon sens aussi ce qui explique pourquoi, pendant longtemps, il y a souvent eu, de la part des autorités ou autres, une analyse erronée du phénomène, parce que, justement, c'est difficile d'être en contact avec ces gens-là. Or, pour les comprendre, je pense que on est obligé de les écouter et de leur poser la question. Moi, tout mon travail depuis 5 ans, qui a commencé effectivement en Tunisie, avec les djihadistes tunisiens, au lendemain de la révolution tunisienne, qui a été un peu de 2011, l'année zéro de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, tout mon travail, c'est de comprendre comment quelqu'un qui a grandi en France ou en Belgique, qui a été dans l'école de la République, comme on dit en France, comment cette personne, tout d'un coup, devient djihadiste et choisit de combattre la société qu'il a vu grandir.
Alors on va en parler, on va voir qu'il y a des profils assez différents, des motivations parfois différents. Les premiers témoignages, vous venez de dire, vous les avez recueillis en Tunisie, c'était dans la foulée du printemps arabe en 2011, alors que le pays paraissait libéré de la dictature. Vous constatez, vous êtes l'un des premiers à le remarquer, que des jeunes partent de plus en plus nombreux combattre au Moyen-Orient.
Oui, parce qu'en Tunisie, c'était un vrai mouvement social, si vous voulez, le djihadisme. Au lendemain de la révolution, à partir des premiers mois qui ont suivi la chute du régime de Ben Ali, il y avait des milliers de jeunes qui commençaient à partir, on s'en souvient, à Lampedusa pour rejoindre ce pays de cocagne à leurs yeux qui était l'Europe, pays de cocagne économique. Un an plus tard, j'ai commencé à voir les mêmes jeunes ils ne partaient plus vers ce pays de cocagne économique, mais leurs espoirs s'étaient déplacés d'un pays de cocaïne économique vers un paradis céleste qui était à leurs yeux la Syrie. Et c'est pour ça que dans le livre, j'essaie aussi de montrer que en France, on a longtemps eu une analyse sectaire de ce phénomène, dans la compréhension de pourquoi ils partent. Et le problème de l'analyse sectaire, qui a été vraiment le paradigme absolu des autorités françaises de 2014 à 2016, c'est qu'il évacue complètement deux aspects centraux dans la motivation des gens qui partent là-bas. C'est la motivation idéologique, la motivation politique et la motivation religieuse. En France, il y avait un tabou sur cette question-là. On ne voulait pas reconnaître qu'il y avait une dimension authentiquement religieuse dans leur démarche. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont convaincus de leurs intentions. Ils sont convaincus de faire le bien, même lorsqu'ils tuent.
Oui, donc c'est ça. Vous voulez dire, on a tendance à les considérer comme complètement embrigadés sur les méthodes des sectes, alors qu'en fait, il y a des convictions qui se sont forgées et qui sont assez profondes.
Absolument. Mais ce qui n'évacue en rien la dimension sectaire dans l'endoctrinement, etc. Mais ce sont des gens qui ont d'authentiques convictions. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier.
Ce qui est intéressant, c'est donc qu'on se rend compte qu'il y a parmi ces djihadistes des gens très différents. Ils reviennent parfois après plusieurs années, parfois après quelques semaines passées en Syrie, en Irak, en France. C'est la conclusion inquiétante peut-être de votre enquête, c'est qu'ils reviennent pas nécessairement en ayant rompu avec leurs idées radicales qui sont littéralement bien forgées dans leur esprit.
Alors, il y a des profils différents, c'est vrai, mais aussi l'un des enseignements du livre que j'ai essayé de montrer, c'est que cela n'arrive pas, ne peut pas arriver à n'importe qui. J'essaie de mettre en lumière à travers ces entretiens des variables qui constituent un substrat qui va favoriser la bascule d'un individu plus qu'un autre. C'est un substrat qui est parfois sociologique dans bien des cas, puisque en France, et je pense que c'est à peu près la même chose en Belgique, 70% de ces gens viennent des quartiers populaires, des quartiers sensibles, et sont issus de l'immigration maghrébine ou subsaharienne. Et les 30 autres % qui sont des convertis, eux-mêmes sont, je pense, au moins pour moitié, voire plus, issus de minorités. En France, les anti-françaises sont surreprésentées dans les convertis. Donc ces données-là sont des données sociologiques qui sont signifiantes. Il y a des données psychologiques évidemment à prendre en compte. Il y a ce sentiment d'humiliation pour la France qui est l'humiliation qui peut être une humiliation qui n'est pas forcément économique, puisque dans le livre je raconte l'exemple d'un fils de médecin qui est parti en Syrie et ses parents médecins, donc des gens je suis allé chez eux, qui vivent dans un confort matériel total, qui n'ont jamais manqué de rien. Le garçon a toujours est toujours parti en vacances à Dubaï, en Turquie avec sa famille, etc. C'est un élève qui n'a jamais posé problème, jamais été délinquant, qui a eu son bac S avec mention, mais si vous voulez, lui avait un sentiment à un moment donné dans sa vie, un sentiment d'échec scolaire, parce qu'il avait voulu faire médecine comme ses parents, ça n'avait pas fonctionné, et c'est à ce moment là que il y a la rencontre entre cette humiliation, ce sentiment d'humiliation, cette frustration et l'idéologie djihadiste qui va donner une possibilité de revanche à tous ces égos froissés, une revanche sur un passé, une histoire nationale française qui est ressentie comme une humiliation, celle de la colonisation, ça revient souvent, beaucoup dans les entretiens, et si vous voulez, cette idéologie-là, leur permet de lever la tête, elle pulvérise toutes ces frustrations. Il y a aussi, voilà, ça c'est quelque chose, on inverse les rapports de domination, de dominer en France ou en Belgique, on devient dominant en Syrie. On appartient au groupe qui impose par la terreur, par la force, sa loi sur les Syriens. Les Français et les Belges qui partent là-bas deviennent des colons à leur tour, ce que ils ont l'impression. Et là, c'est là que c'est important de prendre en compte la dimension de revanche, parce que ils deviennent les colons, ce que leurs grands-parents n'ont pas été, ce qu'ils vivent comme un sentiment traumatique. Mmh. Donc ça,
certains vont là-bas pour chercher une situation sociale. Quelque part.
Mais c'est ce que leur offre l'État islamique. L'État islamique leur offre un statut social, celui de super-héros de l'islam. Mais, si vous voulez, et c'est ce que j'ai appelé, entre guillemets, le lol djihad, c'est qu'il y a une dimension totalement hédoniste dans l'engagement djihadiste. On part là-bas aussi pour se faire plaisir. Il y a une promesse d'hypersexualité également à prendre en compte dans le départ en Syrie. Cette hypersexualité en Syrie, c'est une réalité. La possibilité d'avoir 4 femmes, la possibilité d'aller puiser dans des viviers que sont ce qu'ils appellent les madafa, les maisons pour femmes où sont séquestrées des femmes célibataires et veuves, et où les combattants viennent tous les jours puiser lorsqu'ils le souhaitent une femme, et qui peuvent la répudier assez facilement. Cette promesse d'hypersexualité est une réalité, c'est un élément à prendre en compte. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on ne peut pas évacuer du tout la conviction chez eux que cet engagement, et ça c'est l'élément central dans leur motivation, et c'est difficile de l'admettre pour des gens qui ne sont pas croyants, c'est la conviction que de partir en Syrie, ça va leur ouvrir grand les portes du paradis. Mmh. Et eux, pour eux, ça c'est l'élément central.
Alors vous parliez des femmes. Souvent ici, elles sont considérées comme des victimes, attirées, embrigadées par des hommes qu'elles suivent sans trop nécessairement savoir où ça va les emmener. Vous constatez que, c'est vrai, il y a des femmes qui sont tout à fait exploitées, mais que celles qui partent faire le djihad, elles partent souvent convaincues, parfois elles sont très actives dans la mouvance.
Il y a eu un biais de genre, en fait un préjugé sexiste sur l'appréhension de l'engagement djihadiste féminin. C'était de dire, parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles sont des femmes musulmanes, parce qu'on est dans des milieux hyper conservateurs, ces femmes sont forcément soumises à la domination masculine, elles sont forcément dans une situation de soumission, elles sont des victimes, ce ne sont pas elles qui ont choisi de partir, et en plus, elles ne représentent pas de danger pour la sécurité nationale. Dans le livre, je montre, et ça c'est ce que j'ai constaté au travers de tous les entretiens que j'ai menés avec eux, des Françaises, à la fois qui étaient en Syrie, en Irak, par les réseaux sociaux, mais aussi sur la longueur avec des Françaises qui sont revenues de Syrie et d'Irak, de l'État islamique, que j'ai rencontrées plusieurs fois pendant près de 2 ans et demi, c'est que ces femmes, elles sont dans une situation de détermination, de fanatisme, qui est sinon identique à celui des hommes, mais peut-être parfois même supérieur. Je raconte l'exemple de cette maman dont le fils de 12 ans, c'est le plus jeune Français qui a été tué au sein de l'État islamique en Syrie. Cette maman, lorsqu'elle apprend la mort de son fils de 12 ans au combat, elle pleure, mais elle pleure de joie. Ensuite, son second fils meurt, son mari meurt, et elle espère ainsi pouvoir avoir ce qu'elle considère comme une faveur de l'État islamique, alors que c'est interdit pour les femmes, celle de réaliser une opération suicide en Irak, parce qu'elle est convaincue que ça va lui ouvrir grand les portes du paradis. Voilà aussi la réalité de l'engagement djihadiste féminin, où cette jeune Française avec qui j'ai mené des entretiens pendant longtemps en France, qui revient en France, qui est en liberté. Et qui m'explique, même si elle a subi toutes les vexations au sein de l'État islamique, elle a été mise en prison, ses biens lui ont été confisqués après la mort de son mari, eh ben, elle continue de considérer que le projet djihadiste, celui de l'État islamique, est un projet positif. Mmh. Elle me tient des propos qui sont des propos qui sont très durs à entendre. Pour quelqu'un qui revient de là-bas, qui a passé un petit peu moins d'un an là-bas, elle me dit par exemple que l'attentat de Charlie Hebdo, c'était le plus beau jour de sa vie, et qu'elle rêve que d'autres attentats soient faits, et par des femmes, en France. Donc voilà le degré de détermination des femmes également. Donc les femmes ne sont pas des victimes, aucune femme n'est partie en Syrie, forcée par son mari, elles l'ont toutes voulu.
On comprend en lisant ces témoignages, c'est un livre qui repose beaucoup sur les témoignages, vous retranscrivez des conversations que vous avez eues ou que certains djihadistes ont eues avec des autorités, ça se lit d'ailleurs de façon assez captivante. On comprend au travers tout ça que ces djihadistes qui reviennent, ces returnees, ils représentent un danger pour les sociétés en Europe.
On ne mesure pas encore la déflagration que va être à l'échelle régionale le djihad en Syrie et en Irak aujourd'hui. Finalement, chaque expérience djihadiste dans l'histoire du djihad contemporain a renforcé les capacités de nuisance des djihadistes. On le voit avec ce qui s'est passé en Afghanistan, premier djihad afghan, naissance d'Al-Qaïda. Si on prend l'exemple des Algériens, lorsqu'ils sont les combattants djihadistes algériens en Afghanistan, quand ils sont revenus après la fin de ce djihad en Algérie, ce sont eux qui ont structuré les maquis algériens, ce sont eux qui ont structuré l'insurrection islamiste algérienne pendant la guerre civile, et ensuite qui ont donné naissance, après la fin de cette guerre civile algérienne dans les années 90, au GSPC, Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec les conséquences que ça a aujourd'hui. Donc, de même, après la Bosnie, on se souvient du gang de Roubaix en France, avec ces vétérans français qui revenaient de ce djihad en Bosnie et qui ont ensuite mené des actions terroristes sur le sol français. Là, on était, pour l'Afghanistan et la Bosnie, sur des ampleurs numériques qui étaient 10 à 100 fois inférieures à celles qui sont celles de la Syrie et de l'Irak aujourd'hui. Donc on peut imaginer que les conséquences seront 10 à 100 fois plus graves pour l'Europe, mais aussi pour le Maghreb. Donc on est dans une situation très, très périlleuse, ça c'est une certitude, d'autant plus que, comme on le voit dans le livre, l'un des enseignements aussi de ce livre, c'est de montrer que ceux qui reviennent de là-bas sont certes déçus de l'expérience qu'ils ont vécue, mais pour la plupart d'entre eux, pas du tout repentis de l'idéologie djihadiste. Aujourd'hui, l'État islamique, il est sur le déclin, mais ce n'est pas le cas de l'idéologie djihadiste, qui n'est pas, elle, sur le déclin.
Et vous mettez aussi un petit peu en doute l'efficacité des programmes de déradicalisation. Quand vous avez tiré la sonnette d'alarme, c'était avant les attentats de Paris, sur ce risque que représentaient les djihadistes qui reviennent potentiellement en France, en Belgique. Au début, on a mis un petit peu en doute votre alarmisme. On s'est dit que vous faisiez peut-être le jeu de l'extrême droite. Enfin, vous n'avez pas toujours été pris au sérieux. Il y avait une espèce de déni, vous expliquez.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Alors, en ce moment, il y a sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui ressort beaucoup, effectivement, d'un plateau de télévision sur France 2, lors d'un débat où j'expliquais que les djihadistes, on était en avril 2014, les djihadistes qui partent en Syrie pour les Français et les Tunisiens, ceux avec qui j'avais mené des entretiens, dont certains ont constitué la cellule souche de ce qu'allait devenir le commando du 13 novembre. Lorsque j'ai expliqué sur ce plateau, effectivement, que les gens qui partent là-bas ont des intentions terroristes contre leur pays d'origine, qu'il serait légitime de frapper la France à leurs yeux. Effectivement, je me suis fait étriller sur certains plateaux de télévision parce que je faisais le jeu de l'extrême droite, des populismes, de l'islamophobie, que je risquais de justifier des politiques répressives contre les musulmans. Alors que tout ça, en fait, si vous voulez, c'était le résultat d'un travail empirique de terrain. Un an d'entretien à l'époque, en 2014, avec des djihadistes qui m'avaient confié leurs intentions terroristes. Je l'ai écrit dans mon premier livre, Les Français djihadistes, qui est sorti en mars 2014. Et effectivement, à l'époque, c'était quasiment indiscutable en France, et la mesure clairement n'a pas été prise de ce qui était en train de se passer. Ça prouve une forme de déconnexion entre certains milieux, notamment, faut le dire, les milieux du renseignement français, les milieux universitaires, les milieux médiatiques, avec ces couches de la population un petit peu souterraines, là où tout s'est passé en France, parce que c'était à ce moment-là le moment où les départs de Français 2012, 2013, 2014 étaient massifs vers et de Belges également vers la Syrie.
Merci David Thompson d'avoir été avec nous pour commenter cette actualité. 7h59.